Vacances. Le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller, merde.
Il y avait du soleil, alors je suis descendu.
Il y a du soleil, il y a des nanas.
Cinérama.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial.
Je ne m'attarderai pas en vaine palabre, je serai bref et précis, je ferai feu à bout portant.
Tu pars pas en vacances?
Non, pourquoi?
Pas possible.
Nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital.
C'est le seul point noir au tableau.
Je m'en fous.
Tout l'été, Cinérama, blind test et actualité du cinéma.
Ouais, jamais très original dans ces moments-là.
This is Cinérama.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama en mode été, avec toujours des blind tests, sauf qu'on les sort des archives, et par contre on fait un petit point quand même sur l'actualité des films. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors tu vas nous parler de quel film aujourd'hui ?
Alors je vais vous parler de Rendez-vous à Tokyo, de Daigo Matsu.
Quant à Marine, elle parlera de Suro, de Mikkel Gurea. Alors je vous assure tout de suite, c'est un film assez confidentiel. Et puis nous ressortirons des archives un blind test autour de la filmographie de Quentin Dupieux, car il sort le film Yannick, que malheureusement nous n'avons pas pu voir, mais on a quand même tenu à marquer le coup. Et puis aussi tu vas nous parler d'une femme compositrice, ça c'est la série de l'été.
Oui, je vais vous parler de Wendy Carlos.
Mais nous commençons avec sept rendez-vous entre un danseur professionnel et une conductrice de taxi dans le Tokyo d'aujourd'hui. C'est, Rendez-vous à Tokyo.
Bah oui, c'est le film et le film est bien.
Cinérama.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Premier film de Daigo Matsu à nous parvenir, et à nous parvenir sur grand écran. Donc Rendez-vous à Tokyo est un film romantique comme on n'a plus trop l'habitude de les voir dans une salle de cinéma. Le réalisateur de 38 ans nous invite dans un voyage à travers la vie d'un couple, Teruo et Yo, unis et défaits, qui va traverser plusieurs années de leur rencontre à leur séparation et l'après. Mais ce ne sont pas à n'importe quel moment que Matsui va nous convier, mais toujours nous ramener à la date du 26 juillet, soit l'anniversaire de Teruo et bien sûr la première soirée qu'ils ont passée ensemble. Une idée qui a dû plaire aux distributeurs français, puisque c'est la date de sortie du film. Alors ce jour sans fin, ou plutôt ce focus sur cette date sans fin, est d'entrée marqué par une référence qui nous saute bien évidemment aux yeux. Teruo est passionné par Night on Earth, le film choral et nocturne de Jim Jarmusch, qu'il regarde régulièrement et dont il a un poster au mur, et Yo travaille comme chauffeur de taxi la nuit. Alors toute la mélancolie et la poésie douce d'un quotidien qui s'illumine par le regard vivant de ses protagonistes se retrouve là, corroborée par l'une des plus jolies phrases prononcées par Yo. Alors qu'une cliente lui demande si elle voyage, elle répond que non, elle n'a pas d'idée ou d'envie précise, et que les destinations demandées par ses passagers constituent autant de périples excitants pour elle dans la nuit. Il y a aussi du Richard Linklater dans Rendez-vous à Tokyo. Si le concept de retrouver les personnages à chaque fois un 26 juillet sur plusieurs années fait penser aux expérimentations temporelles du surdoué d'Austin, comme dans le chef-d'œuvre Boyhood, on repense forcément, fortement, à sa magistrale trilogie sur l'amour Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight. Le focus donné aux deux amis, puis amants, puis ex, le fait de les isoler dans le taxi de l'héroïne pendant de longues minutes en plan continu qui sert à faire monter l'émotion et prendre à la gorge le spectateur qui voit les émotions évoluer et changer son couple, mais aussi les réflexions sur la vie, les petits riens qui font de grands tout et les conséquences d'actes réussis ou parfois manqués rend palpable le chemin passé avec Teruo et Yo, et on a l'impression de vivre l'histoire à leur côté quand on ne se reconnaît carrément pas dans certaines interactions. La grande force de Matsui, c'est de construire une mise en scène très réfléchie et très esthétique dans ses cadres et ses couleurs, sans qu'à un seul moment cela ne pèse sur le visionnage du film, devenu une belle expérience interactive pour peu que vous soyez pris dans l'intrigue. Par exemple, quand les deux amoureux prennent pour la première fois un taxi que Yu ne conduit pas, Matsui a l'intelligence de rester sur eux et de ne jamais filmer le conducteur, quand bien même il commente sa manière de manier la voiture. Alors ce dernier n'interviendra que le temps de deux plans au moment opportun. On ne sort jamais de la bulle créée par le réalisateur, et nous sommes de tous les instants dans ces souvenirs qui composent autant de rendez-vous ludiques et émouvants. À la manière de Linklater, le travail de Matsui ne se limite pas aux gimmicks que pourrait constituer la date récurrente du 26 juillet, et l'utilise comme tremplin émotionnel qui entretient le suspense et l'intérêt jusqu'au bout. Les nombreuses scènes de nuit impressionnent par leur beauté et rappellent le travail de Michael Mann sur des textures, les textures d'une ville après le coucher de soleil qu'il avait travaillé de façon expérimentale avec des caméras numériques qui étaient alors nouvelles sur Collateral et Miami Vice. Dépouillé de tout grain vidéo numérique, Rendez-vous à Tokyo exploite tout le potentiel moderne des caméras de dernière génération et rien que pour ça, le film vaut le détour sur grand écran. Derrière le titre français très générique, on sent l'intention du distributeur français de souligner ce qui semble être une des autres influences du réalisateur japonais, celle-là, le cinéma, forcément d'Ozu. Bien sûr, on pense à la proximité du titre de l'un de ses plus célèbres films, Voyage à Tokyo, mais c'est surtout dans la manière de filmer la vie, ses joies, ses petits tracas et le temps qui passe qui établissent une proximité certaine avec l'œuvre de Matsui. Rendez-vous à Tokyo parvient à toucher avec l'histoire la plus contée, la plus simple, mais aussi la plus universelle au monde. C'est une vraie belle réussite et on espère voir arriver dans nos salles les prochains voyages concoctés par Matsu, assurément, en tout cas pour moi, une figure du cinéma japonais à suivre de près.
Rendez-vous à Tokyo, c'est en salle depuis le 2 août. Nous entamons maintenant la série autour des femmes compositrices et nous allons parler de Wendy Carlos.
Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. C'est de la bouillie tout ça.
Cinérama.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.
Parfois, la pomme ne tombe pas bien loin de l'arbre. Alors, issue d'une famille où quasiment tout le monde joue d'un instrument ou chante, Wendy Carlos, née Walter, s'amuse à créer et à composer avec des clarinettes, des accordéons ou encore au piano, quand il ne s'agit pas de mêler le tout pour faire un ensemble qui détonne. Mais très vite, le simple piano ne l'intéresse plus. Il faut dire que Wendy découvre aussi l'informatique dans son adolescence et une fois après avoir étudié la musique dans plusieurs universités, elle commence son travail de réinterprétation de morceaux classiques à l'aide du célèbre synthé Moog. Quand on est l'assistante de l'illustre Leonard Bernstein et qu'en même temps on collabore avec le créateur du Moog lui-même, donc Robert Moog, il fallait s'attendre à ce qu'on tape dans l'œil d'un cinéaste assez rapidement. Ce sera celui de Stanley Kubrick qui, séduit, l'embauchera pour son célébrissime Orange Mécanique. Avait compris que les sonorités synthétiques allaient permettre de dépeindre au mieux l'univers glauque et pourtant si proche du nôtre d'Alex et de ses drugs. Et cette petite déformation entre le connu et l'étrange provoquée par les compositions de Carlos firent des merveilles. On écoute un extrait de la marche composée par Carlos qui réinterprète à sa façon l'hymne à la joie de Ludwig van Beethoven.
Thank you.
Wendy Carlos ne pouvant être utile sur le film suivant, le drame costumé Barry Lyndon, les deux artistes se retrouvent donc au tout début des années 80 pour quelques notes reprises du Dies Irae de Berlioz et qui vont fortement marquer le cinéma d'horreur et le cinéma tout court. Bien sûr, tous reconnus entre deux frissons, le main title de Shining, la terrifiante adaptation très libre du chef-d'œuvre de Stephen King.
Et à noter d'ailleurs que ce morceau arrive en ouverture du film. Et c'est la petite famille qui est en coccinelle, qui est dans des paysages montagneux avec une espèce de caméra flottante. On imagine un hélicoptère ou quelque chose comme ça. Et normalement, ces images n'auraient rien d'inquiétant, mais la musique vient poser finalement tout ce qui va ensuite advenir dans le film. Alors c'est une introduction.
Tu as tout à fait raison, c'est absolument mémorable. Mais c'est dommage d'ailleurs parce que ce sera à peu près tout ce que va regarder Kubrick du score enregistré par Carlos pour le film. Mais cette dernière s'est déjà tournée vers un autre sujet qui lui sera tellement idéal pour elle qu'il en constituera carrément son champ du cygne au cinéma. Tron, le film visionnaire de Steve Lichtenberg et produit par Disney, qui nous plonge littéralement à l'intérieur des ordinateurs et dans un univers virtuel, sera un échec à sa sortie en 82, mais deviendra totalement culte par la suite. On se quitte avec l'une des raisons de ce culte, sa musique, et un extrait qui s'appelle Anthem.
Reviendront la semaine prochaine avec cette série sur les femmes compositrices et ce sera enfin une française.
Oui, on va parler d'Émilie Simon qui va vous réserver peut-être des surprises que vous ne connaissiez pas.
Allez, vous serez à l'écoute. À la semaine prochaine. Passons maintenant aux archives de cette émission. On est allé retirer d'une des émissions de Cinérama de saison un blind test que nous avions fait sur Quentin Dupieux, qui a une petite filmographie, mais qui continue malgré tout de sortir des films. Et là, il en sort un tout petit qui dure un peu plus d'une heure. Il s'appelle Yannick, avec Raphaël Quénard, Blanche Gardin et Pio Marmaille. Alors, il se trouve qu'on n'a pas pu le voir. On a pourtant demandé au distributeur, mais ça n'a pas été possible. Mais ça ne nous empêche pas eh bien, de marquer le coup en ressortant donc, ce blind test autour de la filmographie de Quentin Dupieux. Ça vous donnera peut-être l'occasion de piocher dans ces films si vous n'en avez pas vu ou si vous n'avez pas tout vu.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il, d'une blague ?
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
Quentin Dupieux, c'est 19 ans de carrière et puis quand même un tube. Donc ça fait 11 films, dont une majorité de longs métrages, mais peu de spectateurs encore, 2,6 millions dans les salles et pas seulement françaises. Voilà, donc ce blind test est l'occasion bien de faire un petit tour du côté de sa filmographie. On commence normalement avec quelque chose. Alors ça va être surtout facile pour toi, Menu, parce que tu es pas un admirateur de Quentin Dupieux, mais en tout cas quelqu'un qui a vu quasiment tous ses films, je crois.
Je crois que j'ai vu tous ses films. En
voilà,
fait.
C'est dit.
Est-ce que tu te souviens des types que tu as vus hier?
Ah ouais, ouais.
C'est les Shivers.
D'accord.
Ok. Répète Shivers.
Shivers.
Voilà, c'est ça. Bon, ben moi maintenant, je suis un Shivers, tu vois.
Ok.
Voilà, ça veut dire que j'assure à fond.
D'accord.
Il n'y a pas mieux que les Shivers.
Et moi, je suis quoi?
Toi, t'es rien du tout. Hein? Donc, avec cette bande, il faut que je t'explique un truc. Je marche sur des œufs, tu vois. Il va de ma répute, je peux être out en moins de 2 secondes.
Waouh.
Est-ce que tu comprends quand je te dis out?
De ne plus dedans.
Voilà, de ne plus dedans. Et ben je peux de ne plus être dedans en moins de 2 secondes. C'est pour ça que maintenant, il faut que je marche seul. Je ne peux plus traîner avec toi, tu comprends? Toi, tu crains. Toi, tu crains à mort même. Tu crains à l'infini.
C'est trouvé.
C'est Steak. Oui. Alors, c'est pas le premier film.
Mais c'est le deuxième.
C'est le deuxième long métrage. Ouais.
Steak, film de 2007 avec Éric Judor et Ramzi Bedia, qu'on entend ici dans cet extrait. Nous sommes dans un futur proche de 2007, soit 2016. Et la tendance est au lifting. Georges, donc Ramzi Bedia, un étudiant, veut intégrer les Shivers, une bande liftée à l'extrême qui boit du lait et ne fume pas. Et Blaise, donc Éric Judor, un loser rejeté et ex-ami d'enfance de Georges, aimerait lui aussi faire partie de la bande. Ça réunit 290 000 spectateurs en France. Les Shivers, c'est une référence au film Shivers de David Cronenberg. Et puis, alors, leur pratique, la violence, leur code, la consommation de lait, ça fait référence au film Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Ce ne sera pas la seule référence à Stanley Kubrick dans les films de Quentin Dupieux. La preuve avec cet extrait.
Tu crois que Kubrick s'enregistrait des heures comme ça, comme un con?
C'est du travail de recherche, pourquoi tu dis comme un con? J'ai l'air con.
Ben, je sais pas, réponds-moi, est-ce que tu penses que Stanley Kubrick préparait ses chefs-d'œuvre comme ça, en écoutant des cris en pyjama?
Mais je m'en branle de Kubrick. Hein, chacun ses méthodes. Puis si j'ai envie de bosser en pyjama.
Oh, mais te braque pas, je sais pas, moi j'essaie juste de comprendre, je trouve juste un peu ridicule, c'est tout.
Ok. Ben, merci pour ton support. Vraiment.
Oh, mais j'y connais rien au cinéma, moi.
Eh, hey, Kubrick mes couilles.
Eh ben on voit tout de suite le niveau, donc.
Donc, c'est Reality.
Oui, film de 2015 avec Alain Chabat qu'on entend face à Élodie Bouchez. Et il y a aussi Jonathan Lambert. Le caméraman Jason Tantra, donc Alain Chabat, s'apprête à réaliser son premier film d'horreur. Et Bob Marshall, Jonathan Lambert, un riche producteur, accepte de le financer à condition que Jason trouve le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma. Et pour ça, il a 48 heures. La bande originale est composée alors uniquement des 5 premières minutes de Music with Changing Parts de Philip Glass. Et puis alors il y a des petits clins d'œil, il y a l'affiche de Rubber 2 qui n'a jamais existé, ce film, et c'est un clin d'œil au film Rubber, donc réalisé par ce même Dupieux. Ce film, avec quand même un casting intéressant, n'a réuni que 84 000 spectateurs en France. Troisième extrait.
Tu sais, je connais un peu moi aussi tout ça.
Ouais.
Ouais, parce que je fais du montage en fait. Ben là je suis serveuse parce que j'ai rien d'autre à foutre dans ce bled, hein, mais ma vraie passion c'est le montage, ouais, carrément.
Montage, ouais.
Tu sais ce que je fais? Je m'amuse à remonter des films qui existent déjà. Et comme ça, je change l'histoire. Ça, c'est cool. Là, par exemple, j'ai remis Pulp Fiction dans l'ordre. Tu vois Pulp Fiction?
Oui, ouais, ouais.
Ouais. Bah, le concept du film, c'est que tout était mélangé. C'était ça qui était intéressant. Et du coup, bah, moi, pour voir, j'ai remis les scènes dans l'ordre. Et le résultat, mais ouais, c'est carrément nul, en fait. Ouais. C'est carrément nul, ouais.
Mais comment tu fais en fait pour remettre un film dans l'ordre? T'as une machine spéciale?
Bon, il est censé être réalisateur, cet homme.
Le Diary.
Oui, avec Jean Dujardin et Adèle Haenel qu'on entend ici. Film de 2019. Georges, la quarantaine, quitte du jour au lendemain sa femme et son travail pour s'offrir le blouson de ses rêves, une veste en daim à franges. Et le vendeur lui cède avec un caméscope numérique. Il prend une chambre d'hôtel dans une station des Pyrénées et fait la connaissance de Denise, une serveuse cinéphile qui rêve de devenir monteuse. Eh bien lui, Georges, lui fait croire qu'il est un réalisateur en repérage pour un prochain tournage. Bon, ça rend là forcément un certain nombre de dialogues croustillants. 213 000 spectateurs en France pour ce film de 2019. Un nouvel extrait tiré de la filmographie de Quentin Dupieux.
Pourquoi tu viens encore ici?
Pourquoi je viendrais pas? J'aime ce job. Ça pose un problème?
Ah non, 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 non. On aime tous ce job. C'est juste que c'est différent dans ton cas. T'as été viré il y a 3 mois.
Et alors? Ça change quoi, en fait?
Ben, c'est un peu étrange de continuer à venir bosser quand on veut plus de toi. Et en plus, tu respectes même pas les horaires de bureau.
Ouais. Et ton ordinateur est même pas branché. Tu fais semblant de bosser. C'est n'importe quoi.
Et qu'est-ce que ça peut vous foutre, hein? Mais si ça me plaît?
Écoute, je suis désolée, Dolph. Mais si tu continues à venir, je vais être obligée de prévenir la direction.
Mmh. Moi aussi.
Encore une histoire insolite, on dirait, hein? Ça a été trouvé?
C'est Vrong.
Oui. Film de 2012 avec Jack Plotnick et puis Eric Judor, qui est dans le coin aussi, qui a un petit rôle. Dolph a perdu son chien, Paul, et il continue de se rendre à son travail qu'il a pourtant perdu. Ça, c'était l'extrait qu'on écoutait. Et le palmier dans son jardin se transforme en pain. Il pleut dans le bureau de Dolph sans que ça vraiment importune ses collègues. Et donc, afin de remettre de l'ordre dans sa vie, il décide de partir à la recherche de son chien. Ce film a réuni 44 000 spectateurs en France. Voilà. Un peu plus de monde, quand même, pour ce dernier film, il faut en trouver le titre.
Salut Fiston.
Salut pas.
On se mangeait un petit bout?
Oh non, ça va, j'ai déjà mangé avec un pote. Je t'ai ramené un hot dog.
Oh, c'est gentil ça. Alors, qu'est-ce que tu racontes de beau?
Ouais, ça va, j'ai eu envie de me suicider il y a une semaine environ. Mais ça m'a fait flipper au dernier moment, du coup je l'ai laissé tomber. Je voulais sauter par la fenêtre, mais au final j'ai regardé une émission à la télé à la place. Ça m'a dégoûté du suicide un peu maintenant. J'ai envie d'être vivant. Et toi, ça va pas? Et toi, ça va pas?
La routine, la routine.
Cool.
Trouvé.
Au poste.
Oui, film de 2018 avec Benoît Poulvorde qu'on entendait ici. Et Grégoire Ludic, en revanche là, Benoît Poulvorde était face à Aurel San. Le commissaire Buron est chargé d'enquêter sur le meurtre d'un homme retrouvé gisant dans son sang par Fugain. Et celui-ci est logiquement considéré comme le principal suspect. Il s'ensuit alors un interrogatoire qui va durer toute la nuit. 266 000 entrées en France. Ainsi s'achève donc ce blind test consacré à la filmographie de Quentin Dupieux.
This is Cinerama.
C'était donc le blind test autour de la filmographie de Quentin Dupieux que nous avons ressorti des archives. Place maintenant à nouveau à l'actualité dans cette émission Cinérama spécial été avec Elena et Yvan qui s'apprêtent à entrer dans une nouvelle phase de leur vie. Alors ils quittent la métropole de Barcelone pour s'installer dans la campagne de Catalogne. Mais ça ne va pas être aussi simple. C'est Sureau et c'est Marine qui nous en parle.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Elena et Ivan sont un couple de trentenaires citadins qui s'apprêtent à entrer dans une nouvelle vie. Ils ont en effet décidé de quitter Barcelone pour s'installer en Catalogne, en pleine forêt, afin de reprendre l'exploitation d'une plantation de chênes, ceux dont on enlève l'écorce pour faire du liège. Leurs raisons sont plutôt nobles. Le jeune couple veut également exploiter la plantation de manière équitable et durable. En arrivant dans un environnement provincial, rural, même qu'ils ne connaissent pas et qui se trouve régi par des codes différents, Elena et Ivan vont voir leurs rêves mis à mal et assister au délitement de leur relation.
Fàcil ser un idealista apassionat quan la gent s'encarrega de les coses que tu no et vols ocupar.
Per mi és important intentar viure segons les meves idees i poder transmetre al meu fill.
1, 2, 3!
Miquel Guerra, le réalisateur, a vécu de plein fouet la tristement célèbre crise de 2008 qui a enfoncé pour les années suivantes l'Espagne dans la misère, avec un pic quand même au cours duquel un actif sur quatre cherchait du travail. Le cinéaste donc n'échappe pas au chômage en sortant de la fac de Barcelone et devient alors écorceur. Alors qu'est-ce que le métier d'écorceur ? Eh bien, il s'agit d'un savoir-faire ancestral qui se perpétue encore dans le nord de la Catalogne, entre autres, et qui consiste à arracher l'écorce des chênes selon une méthode particulière, à la hache et sans abîmer le cœur du tronc, pour ensuite donc en faire du liège. Ce qui a frappé le futur réalisateur, c'est le côté cinégénique de cette pratique, puisque la forêt d'un vert argenté change de couleur au fil de l'été, car à mesure que l'on retire les écorces, les troncs des chênes transpirent et deviennent rouges. C'est également le rapport des ouvriers à la forêt qui l'a inspiré, une forêt dans laquelle ils passent de longues journées, mais qui peut être détruite en un instant si la tramontane se met à souffler et qu'un feu démarre. En dehors des paysages très beaux de la Catalogne, c'est aussi le contraste des cultures que le réalisateur filme. On pense d'ailleurs à Asbestas de Sorogoyen, qui sur le ton du thriller racontait l'impossible greffe d'un couple de Français dans un village espagnol. Ivan se retrouve dans Souro, lui le citadin, dans une ambiance très rurale, très virile aussi, où de nombreux ouvriers catalans qui pratiquent la récolte du liège depuis des années, voire parfois depuis des vies entières, doivent se mêler à des travailleurs immigrés en provenance du Maroc et souvent sans papier. Il faudra à Ivan acquérir un statut de patron, montrer à ceux qui travaillent pour lui qu'il est des leurs, qu'il travaille à leur côté, quitte à devoir s'éloigner de sa femme enceinte, car il ne serait pas bien vu de passer pour un homme soumis et dévoué. Le film, par le biais d'une histoire de couple qui se stimule d'abord, puis se délite, se retrouve, s'abîme, se questionne sur les traditions, parlant ainsi de l'intime et de la société, même si ici la fiction prend même davantage place dans un microcosme. Jusqu'où doit-on épouser les traditions ? Doit-on tout faire pour s'intégrer ? Est-ce que l'individualité peut survivre sans le groupe ou dans le groupe ? Est-ce que la ruralité va forcément de pair avec un certain archaïsme ? Est-ce que la peur de l'étranger est inhérente à tous les milieux ? Ce sont quelques-unes des nombreuses questions que le film soulève, porté par un couple de comédiens très crédibles, Paul Lopez et Vicky Luengo, qui ont d'ailleurs remporté un des prix d'interprétation au Gaudi, les prix du cinéma catalan. Et d'ailleurs, le réalisateur a lui-même également remporté lors de cette cérémonie le prix du meilleur réalisateur débutant. L'un des atouts du film, c'est d'ailleurs un mélange entre acteurs chevronnés et acteurs non professionnels qui ont été castés sur les lieux du tournage, notamment le jeune homme qui joue Karim, l'un des ouvriers immigrés qui va devenir malgré lui un élément perturbateur. Ajoutons que ce choix d'acteur fait parmi les locaux a tout à fait du sens dans un film qui parle de l'appartenance à un lieu ou à une terre. On s'interroge juste à un tantinet sur l'issue du film, sur le propos final, qui semblerait être que le retour à la terre, eh bien, passe par le fait de retrouver ses instincts ancestraux, à savoir protéger sa famille, protéger sa maison. Ce final m'a personnellement laissé un peu dubitative quant à la morale qu'il voudrait communiquer. On vous laisse juger, en tout cas en découvrant ce beau et prometteur premier film de Miquel Guerra.
Suro est en salle depuis le 2 août.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Ça s'impose.
Mais pour quelle raison ?
Qu'est-ce que vous racontez ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Je ne connais pas la réponse moi-même.
Comme vous êtes bizarre.
Oui.
C'est difficile de répondre.
C'est une plaisanterie !
On se retrouve la semaine prochaine donc avec la compositrice.
Oui, cette fois-ci, ce sera la française Émilie Simon.
Voilà, et puis aussi un film en plus.
Et je vais vous expliquer les avantages de voyager en train.
Et nous aurons ressorti un autre blind test, qui sait, peut-être des films qui se passent dans les trains.
Je me rappelle, lorsque j'étais encore tout môme, ma grand-mère et moi avions des conversations des heures entières sans jamais avoir ouvert la bouche. Elle appelait ça le Shining. Et pendant longtemps, j'ai cru que nous étions les deux seuls à avoir le Shining. Comme toi, tu as cru sans doute que tu étais le seul. Mais d'autres ont ce pouvoir, quoique la plupart l'ignorent ou ne veulent pas y croire. Le Shining.
This is Cinerama.